Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
En 1500, la France est à un tournant entre le Moyen-Âge et la Renaissance, marqué par une effervescence artistique et des transformations politiques significatives. En 1500, la France se remet des conséquences de la guerre de Cent Ans qui a opposé le pays à l'Angleterre. Guerre de Cent Ans, 1337-1453. Cette période de conflit a laissé des cicatrices, mais elle a également permis une reconstruction et un essor économique dans plusieurs régions, notamment à Paris, Lyon et en Bourgogne. La France de cette époque est souvent perçue comme un carrefour culturel, intégrant des influences artistiques du Nord et du Sud. Les règnes de Charles VII, 1483-1498, et de Louis XII, 1498-1515, sont particulièrement notables car ces rois ont favorisé le développement des arts et des lettres. Anne de Bretagne, leur épouse, joue également un rôle clé dans cette dynamique culturelle. L'art en France en 1500 est riche et varié avec une grande production de tableaux, de sculptures, de tapisseries et de vitraux. Cette période est souvent considérée comme une transition douce vers la Renaissance, où des artistes de renommée commencent à émerger, contribuant à une esthétique nouvelle et à des techniques innovantes. Une exposition au Grand Palais à Paris a été consacrée à cette période, soulignant l'importance de la France dans le paysage artistique européen.
Le règne de Louis XII, à la charnière des 15e et 16e siècles, s'inscrit dans une période de profonde transformation en Europe. En France, les cicatrices de la guerre de Cent Ans commencent à s'estomper, la dynastie capétienne en sort renforcée, et Louis XII ambitionne, comme son prédécesseur, de s'établir en Italie. Ce faisant, la France va progressivement délaisser l'éternel rival anglais pour un nouvel adversaire, les Habsbourg du Saint-Empire. En Angleterre, justement, Henri VIII consolide la nouvelle dynastie des Tudors, dont l'avènement a mis fin à la longue guerre civile des Deux Roses. L'Espagne, tout juste unifiée sous l'égide des rois catholiques, cherche également à s'implanter en Italie, mais concentre surtout ses efforts sur l'expansion de son empire dans les Amériques récemment découvertes. Le Portugal, bien que moins présent en Europe, se lance lui aussi dans la construction d'un vaste empire outre-mer, en Amérique du Sud et en Asie méridionale, partageant ce nouveau monde avec l'Espagne selon les termes du traité de Tordesillas.
Josquin le Bloit, dit Josquin des Prés, également connu sous Losquinus Pratensis et Lodocus Euprato, né peut-être à Beaurevoir vers 1450-1455 et mort à Condé-sur-l'Escaut le 27 août 1521, souvent désigné simplement sous le nom de Josquin, est un compositeur picard de l'école franco-flamande de la Renaissance. Il est le compositeur européen le plus célèbre entre Guillaume Dufay et Palestrina et est habituellement considéré comme la figure centrale de l'école franco-flamande. Josquin est largement considéré par les spécialistes comme le premier grand maître dans le domaine de la polyphonie vocale des débuts de la Renaissance, style qui allait poursuivre son développement au cours de sa vie. Mille regrets est une chanson polyphonique profane de la Renaissance franco-flamande dont le texte a été mis en musique par plusieurs compositeurs dont Nicolas Gombert, Thielmann Suzzato et surtout Josquin des Prés. La version attribuée à Josquin des Prés étant la plus célèbre, autant aujourd'hui qu'au XVIe siècle, Mille Regrets fut également l'une des œuvres préférées de l'empereur Charles Quint. Cette chanson polyphonique profane à quatre voix, publiée par Pierre Athénian, à Paris en 1533 et attribué à Josquin des Prés, le texte écrit par Jean Lemaire est possiblement l'œuvre du poète Jean Lemaire de Belge. La paternité de la Lamentation a été remise en cause par David Fallow. La chanson « Mille regrets » de Josquin des Prés a inspiré une messe à Cristobal de Morales, la Missa Mille regrets, écrite pour l'occasion de la visite de Charles Quint, dont la version de Josquin des Prés est la chanson préférée à Rome en 1536.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Jacques-Louis David. David, un peintre pour manuel scolaire, pas seulement un témoin de l'histoire vue d'en haut. Chez David, le peuple est très peu représenté, curieux pour un révolutionnaire. L'exposition David-Jacques-Louis au Louvre, rien à voir avec Jean-Louis David, le coiffeur, évoque sa mémoire. Jean-Louis David, un peintre qui a souvent servi à illustrer les manuels scolaires. Ce tableau de Marat, assassiné dans son bain, illustre l'opposition entre la conception jacobine de la société et quelques réfractaires au Nouvel Ordre. Marat incarnait l'horreur pour les partisans de l'Ancien Régime. Pour David, c'était un ami véritable. David qui fut aussi un militant politique proche de Robespierre, ce qui lui fut reproché après la chute de Robespierre. David était né dans un milieu aisé. Au début de sa vie, il fréquenta beaucoup l'aristocratie et la bourgeoisie libérale en essayant de gagner beaucoup d'argent avec ses œuvres. Il se maria avec une jeune fille de 17 ans dont le père était entrepreneur. Celui-ci l'aida beaucoup au début de sa carrière. David aimait l'argent, les honneurs, la politique. Il fit le grand saut en accompagnant Robespierre. Une leçon pour les bourgeois d'aujourd'hui. On peut aimer l'argent et soutenir la révolution. C'est comme si un macroniste devenait mélenchoniste. En politique, les grandes enjambées sont toujours possibles, n'en déplaise aux défenseurs du politiquement correct. Une petite interrogation en pleine exposition sur la portée des images historiques, entendu cette phrase devant le tableau, c'est qui déjà la meuf qui a tué Marat, sa compagne de répondre en lisant l'intitulé « Charlotte Corday, je crois ». L'école publique n'est plus ce qu'elle était. On a tous été biberonnés à l'ami du peuple, les ancêtres des années 70. Aujourd'hui, l'ami du peuple, c'est Mélenchon. Un conseil qu'il ne reçoive jamais personne dans son bain, chez lui. Il est vrai qu'à ma connaissance, Mélenchon n'a pas de maladie de peau, et ce n'est pas un médecin, mais un ancien prof de français. David entoura également de ses peintures Napoléon, comme quoi il aimait beaucoup l'ordre. C'est comme si Bompard finissait chez Bardella. À ceux qui croient que les passerelles n'existent pas en politique, l'histoire leur démontre le contraire. David n'acheva jamais le fameux tableau représentant Madame Récamier. Celle-ci ne fut pas satisfaite du résultat. Son amitié avec Chateaubriand, de l'autre bord politique, est peut-être la cause de son insatisfaction. La peinture de David lui rappelait sans doute un temps la terreur qu'elle s'efforçait d'oublier. David fut aussi le juge du fils de Louis XVI, le petit Louis XVII, un individu au parcours compliqué. Cependant, le parcours de l'exposition est bien balisé. Il nous fait explorer un morceau de l'histoire de France, à défaut de nous faire aimer le peintre des manuels scolaires. Depuis 1781, David pensait faire, pour répondre à la commande des bâtiments du roi, une grande peinture d'histoire inspirée du thème du combat des Horaces et des Curias et indirectement de la pièce de Pierre Corneille, Horace. Mais c'est 3 ans plus tard qu'il mène à bien ce projet en choisissant un épisode absent de la pièce, le Serment des Horaces, 1785, Musée du Louvre, qu'il reprend peut-être de l'histoire romaine de Charles Rollin, ou s'inspire d'une toile du peintre britannique Gavin Hamilton, le Serment de Brutus. Le 8 juin 1781, c'est la rupture entre Wolfgang Amadeus Mozart et le prince-archevêque Colloredo. Et puis c'est aussi l'incendie de l'Opéra de Paris. Le 15 octobre 1781, c'est la création de la sérénade pour vent en mi bémol majeur KV-375 de Mozart. La sérénade numéro 11 pour vent en mi bémol majeur, KV-375, est une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart, composée à Vienne le 15 octobre 1781 pour la fête de Sainte-Thérèse sous forme d'un sextuor à vent. En juillet 1782, Mozart a ajouté 2 parties de hautbois. En 1781, Mozart, alors à Vienne, tente d'obtenir les faveurs de l'empereur en passant par le chambellan de la cour, M. von Strack. Je l'avais écrite pour la Sainte Thérèse, pour la belle-sœur de M. von Hickel, le peintre de la cour. Mais la raison essentielle pour laquelle je l'ai composée, c'est que je voulais faire entendre quelque chose de moi à M. von Strack. Aussi l'ai-je écrite un peu judicieusement. Elle a eu un plein succès. Mai 1968. Les événements de mai-juin 68, ou plus brièvement mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent en France des grandes manifestations ainsi qu'une grève générale et sauvage accompagnée d'occupations d'usines et de bâtiments administratifs. De la généralisation de forums, de discussions, propositions sociales et politiques, d'une paralysie presque complète du système économique et de l'administration, et d'une ébauche d'organisation de relations sociétales égalitaires dans toute la France. Précédé par le mouvement de 1967 contre les ordonnances sur la sécurité sociale, les événements de mai-juin 68 apparaissent d'abord comme une rupture fondamentale dans l'histoire de la société française, matérialisant une remise en cause des institutions traditionnelles, mais l'historiographie de mai 68 a ensuite rappelé aussi, à partir des années 1990, que près de 10 millions de personnes ont fait grève juste avant la négociation des accords de Grenelle en mai 68, qui acte un relèvement de 35% du SMIG, le salaire minimum. La révolte étudiante parisienne et dans les villes universitaires a ensuite gagné le monde ouvrier et pratiquement toutes les catégories de population sur l'ensemble du territoire, pour constituer le plus important mouvement social du XXe siècle en France. Ce mouvement est caractérisé par une vaste révolte spontanée, anti-autoritaire, de nature à la fois sociale, politique et culturelle, dirigée contre le patriarcat, le paternalisme, les structures autoritaires, le capitalisme, le consumérisme, et pour l'instauration de relations égalitaires dans le travail, les études, la famille, et plus immédiatement contre le pouvoir gaulliste en place. Les événements de mai-juin provoquent la mort d'au moins 7 personnes et des centaines de blessés graves dans les affrontements, aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre.
Le 10 mai 1968, vers 21h30, plus de 20 000 étudiants se rassemblent dans le quartier latin à Paris. Un vent de révolte souffle sur la capitale, où l'on dresse des barricades. Les forces de l'ordre se pressent autour des manifestants, et à 2h15, l'assaut est donné. Les lacrymos fusent, les cocktails Molotov explosent, les pavés volent. C'est la nuit des barricades. Elle marque un tournant décisif dans les événements qui agitent la capitale depuis une semaine. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La croissance économique ralentit, le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée par une jeunesse en quête d'émancipation qui écoute du rock'n'roll et a les cheveux longs.
Oh yeah ! Il y a une aspiration extraordinaire au changement.
Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux.
La femme qui veut être vraiment libre, elle n'a qu'à pas se marier.
À la faculté de Nanterre, nouvelle annexe de la Sorbonne, la révolte gronde. Des groupuscules d'extrême gauche se structurent. Ils dénoncent la société de consommation, réclament la rénovation du modèle universitaire et militent contre la guerre au Vietnam, symbole de l'impérialisme américain. Leur objectif, renverser l'ordre établi. Le 22 mars, l'arrestation d'un étudiant du comité Vietnam national met le feu aux poudres. Ses camarades de Nanterre décident de former un mouvement de contestation. Parmi eux, un jeune militant anarchiste propose d'occuper l'un des bâtiments. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. C'est le mouvement du 22 mars.
Vendredi 3. Les étudiants de la Sorbonne invitent leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne.
De fait, ici, nous occupons la Sorbonne.
Mais très vite, les forces de l'ordre pénètrent dans l'université pour évacuer les étudiants. Les premiers pavés sont lancés. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran.
La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps.
Près de 400 étudiants sont arrêtés. La semaine suivante, l'agitation se propage dans les villes de province. Le mouvement prend de l'ampleur. Les étudiants sont dans la rue. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants rejoignent les manifestations. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade.
Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence.
Le 13 mai, les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent.
Avec une retraite qu'ils vous donnent, vous savez, hein, c'est pas beau.
La gravité des événements semble d'abord échapper au général de Gaulle et à son premier ministre.
Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non.
Mais le 24 mai, alors que la France est encore dans la rue, le général de Gaulle s'adresse aux Français.
Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements.
De nouvelles violences éclatent. Une nouvelle nuit des barricades commence. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou promet des avancées sociales et commence des négociations avec les syndicats. Elles aboutissent aux accords de Grenelle qui proposent notamment une augmentation des salaires, une réduction du temps de travail, la mise en place d'allocations familiales. Mais, jugés insuffisants, ils sont immédiatement rejetés par la rue et les grèves se poursuivent. Le 30 mai, le général de Gaulle préside un conseil des ministres, puis fait connaître sa décision à la radio.
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale.
Dans la soirée, une foule de 500 000 personnes se rassemble sur les Champs-Élysées pour lui témoigner son soutien. Inquiet de la violence et de l'agitation dans le pays, ces Français s'en remettent à lui. L'ordre revient. Un an plus tard, pourtant, le général de Gaulle démissionne, n'étant plus soutenu par les Français. Mai 68 aura-t-il eu raison de lui ?
La vie publique dans ce pays ne sera probablement plus après ce qu'elle était avant.
Sur le plan politique, le mouvement survient en une période d'usure de la République gaullienne, en place depuis 1958. En 1965, lors de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, tenue depuis 1948, le général de Gaulle a été mis en ballotage par François Mitterrand et Jean Le Canuet à la surprise générale. Aux élections législatives de 1967, sa majorité à l'Assemblée nationale se réduit à un seul siège. Les centristes, tels Valéry Giscard d'Estaing, assortissent de réserves critiques leur soutien au pouvoir, le 8 mai de 1967. Les démocrates chrétiens, tels Jean Le Canuet, restent hostiles. L'extrême droite ne pardonne pas au général le procès de Vichy ou l'abandon de l'Algérie française. Les gaullistes s'irritent du maintien à Matignon de Georges Pompidou, jugé trop conservateur. Quant à ce dernier, une sourde rivalité l'oppose depuis 1965 au général de Gaulle, dont il lorgne en silence la succession. Le 13 mai 1968, le slogan « 10 ans, ça suffit » traduit dans les défilés une certaine lassitude de l'opinion.
Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
L'Internationale sera le lendemain.
À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de moi qui se le colère.
Certaines chansons, je prends par exemple Ma France, qui est une chanson partisane, qui est à l'encontre de tout ce que la bourgeoisie, depuis la révolution de 1789, a considéré comme la France en général.
Celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France.
Je suis censuré. La diffusion de mes chansons est censurée dans toutes les chaînes de radio, sans parler de la télévision.
La chanson poétique, si vous voulez, doit se battre, sinon c'est pas la peine. La poésie doit être dans la rue, comme je dis. C'est important, parce que ça fait penser les gens, des fois qui n'ont pas le temps de penser, ou pas les moyens.
Les Irrésistibles, The Irresistible, était un groupe américain de la fin des années 60 et du début 70, dont les membres étaient des Américains qui vivaient à Paris. Le groupe était composé de Jim McManus, chanteur, clavier et guitare rythmique, Steve McManus, son frère jumeau, à la basse, Tom Arena, guitare solo, Andy Cornelius, à la batterie.
But I know it takes some time. Thoughts are bouncing in my brain. Oh Lord, are they gonna change? Seems a lot of years and years ago. I need it so. Can't go on sad. I feel so bad. About it all the time. It hurts just to think about the lies. Gonna sing a song again, but not the one that's running in my head. I gotta learn to be a man and help myself. I gotta go on. I can't last long singing this song.
Le groupe s'est formé en 1966 sous le nom de The Centuries lorsque les membres étaient étudiants à l'American School of Paris. Ils commencèrent à jouer parmi la communauté américaine de Paris en reprenant des grands succès contemporains. Les maisons de disques finirent par s'intéresser à eux. Ils signèrent avec CBS qui les commercialisa sous le nom Les Irrésistibles. Leur premier album, dans lequel figure leur plus grand succès commercial, My Year is a Day, écrit par William Scheller, sorti en 1968. La chanson fut un gros succès commercial au cours d'été en France. La version originale française, chantée par Dalida, parut sous le nom Dans la ville endormie. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr retrouver les podcasts de l'émission sur Radio Campus Paris.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.